Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos actions et contre les conséquences de nos péchés en particulier. Et nous demandons protection au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver les tendances de l'âme. En effet, celui qui le guide, jalla wa ala, est le bien guidé. Celui qui est privé de sa direction, et il n'y a d'autre chemin droit que celui qu'il a tracé, subhanahu wa ta'ala, sirat al-mustaqim. Celui qui est privé de cette guidée, certainement, il est aveugle dans ce bas monde, et dans l'au-delà, il le sera également. Qu'Allah nous en préserve. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant et j'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans ses actes qui tous oscillent, n'en déplaise aux ignorants, entre sa miséricorde infinie, sa générosité parfaite et entre sa justice implacable. C'est lui qui, par miséricorde, pure miséricorde, a envoyé aux univers le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdullah, pour montrer le droit chemin en dehors duquel il n'y a qu'égarement. C'est lui qui a dit en substance, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Sallallahu alayhi wa sallam, wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Qu'Allah bénisse ce messager, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui en réalité ont suivi ce droit chemin. Pas seulement dans les apparences, pas par la langue seulement, mais vraiment, ont suivi le droit chemin, le chemin des meilleurs, à savoir ceux que Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, pour l'accompagner. Je veux parler de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. La génération qui a suivi, ensuite celle qui a suivi, les anciens pieux, et il y en aura toujours qui choisiront et qui suivront ce chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette miséricorde, a rappelé aux hommes et aux djinns pourquoi ils ont été créés. C'est certainement pour l'adorer alors qu'il n'a besoin de rien. Et il leur a dit donc que la mort qu'il a décrétée, et si Allah devait revenir sur l'un de ses décrets, ça aurait été de prendre la vie du croyant. Nous allons tous mourir, mais la mort qu'il a décrétée, c'est pour récompenser les uns et les autres qui ont été créés, qui ont vécu, qui ont eu la raison, qui ont atteint l'âge de la puberté et qui ont été éprouvés. Certainement, c'est lui qui a dit, subhanahu wa ta'ala, en substance, qu'il nous éprouvera. Il nous éprouvera dans nos personnes, dans nos biens, dans nos familles, afin de distinguer, et il le sait bien sûr, il sait toutes choses, ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Afin de voir que les uns et les autres se prennent des témoins, pour eux ou contre eux, afin que Allah distingue les gens sincères. Et la sincérité ne s'arrête pas qu'à la langue. Les gens sincères, des gens qui sont des menteurs. Et le mensonge n'est pas que par la langue. Le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhi wa sallam. Ensuite, les gens qui sont les plus proches d'eux, dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc dans sa connaissance. C'est le même, alayhi wa sallam, qui nous a appris que quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Au point de le rencontrer sans aucun péché. Au point de le rencontrer sans aucun péché. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne fait que le meilleur. Parce que la récompense qu'il a réservée aux gens qui ont été patients est sans limite. Allah dit en substance, et Allah certainement accorde sa récompense aux patients sans limite. Et il a loué les gens qu'il a choisis parmi les fils d'Israël pour faire d'eux des imams qui dirigeaient les gens. Imams voulant dire des guides qui dirigeaient les gens vers le droit chemin parce qu'ils ont été patients. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme vient trouver un bédouin, vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il ne parlait pas de lui-même alayhi salatu wassalam. Il l'a tenu par l'habit, et l'habit n'était pas, l'habit était rugueux, par son col presque, si col il y avait, au point qu'on voyait la trace de l'habit sur le cou du meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là osera se prétendre croyant. Et il lui dit, Wallahi, et jure par Allah, le partage que tu viens de faire, le butin que tu viens de donner à des gens, tu ne l'as pas fait pour la face d'Allah. Le prophète sallam est devenu tout rouge. C'est physiologique. Et il ne s'énervait, il se mettait en colère plutôt que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il le dit, Abdallah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, qui lui dit, « Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi j'écris ce que tu dis, que tu sois en colère ou pas. » Il a dit « Écris, parce que même quand je suis en colère, je ne dis que c'est que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. » Ce n'est pas notre cas. Il a dit, il s'est mis en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu, il a subi des fils d'Israël bien pires que cela. Les prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ont subi. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Allah seul sait ce qu'ils ont vécu. Et les savants de l'islam disent qu'il y a trois types d'épreuves dans lesquelles la patience, la persévérance est requise. Trois types. Le premier type d'épreuve, ce sont les épreuves dans l'obéissance à Allah. Et Allah n'a rien ordonné qui ne soit dans ton bien, même si tu ne comprends pas toujours. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la droiture morale, tout ceci c'est pour ton bien. Sans cela, certainement, tu ne serais pas celui que tu prétends être, à savoir un croyant. Et pour que tu sois heureux dans ce bas monde, et dans l'au-delà, Allah t'a ordonné des obéissances et il se passe de tout. La deuxième catégorie est la patience ou la persévérance, la résistance, l'endurance face à l'épreuve de la tentation, des péchés. Des péchés, pour que tu t'en éloignes. Allah n'a rien interdit qui ne soit pas du mal pur ou le mal ne l'emporte pas sur le bien. Comme à propos du vin, quand le prophète sallam a été interrogé, Allah lui répond, on t'interroge sur le vin, dit qu'il y a beaucoup de mal et il y a peu de bien. Le mal l'emporte sur le bien. Allah n'a rien interdit, mon frère, ma soeur, rien, absolument rien. Soit dans le Coran, soit par la bouche du prophète sallam, qui ne soit pas quelque chose de nuisible, où le mal ne l'emporte sur le bien. Alors quand ton shaitan te viendra en disant « fais-le, c'est pas grave », certainement rappelle-toi que celui qui l'a interdit, c'est celui qui se passe de tout, c'est l'omniscient, c'est le dur de châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et le risque que tu prends, il n'y a que le sot ou l'insouciant qui le prendra. Abu al-Abbas Ahmad ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le chef de l'islam, il disait que le fait de résister à la désobéissance est plus difficile et plus méritant que le fait d'obéir à Allah. Pourquoi ? Allah lui a donné ce qu'il ne nous a pas donné. Une sagesse, il dit, parce que obéir à Allah, tout le monde en est capable, entre guillemets. Alors que désobéir, Allah n'honore pas et résister à la désobéissance, Allah n'honore pas celui qui n'est pas sincère. Obéir, tu peux obéir à Allah au travers de la prière. Mais si tu lui désobéis, c'est que ta prière ne t'a pas servi à grand chose. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si la prière, comme Allah le dit et sa parole est vraie, empêche des turpitudes et des choses blâmables, c'est qu'il ne t'a pas honoré par le fait d'accepter ta prière qui va t'empêcher de lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. Désobéir à Allah est une chose qui est énorme. Alors si tu te laisses aller, certainement le fait de lui obéir ne t'a pas servi à grand chose. Et la troisième catégorie que nous considérons tous comme étant la plus difficile, et Allah la facilite à qui il veut, c'est la patience vis-à-vis de ce qui arrive. De ce que tu es, ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, et tu seras très certainement éprouvé. Dans ta personne, dans tes biens. Et Ibn Taymiyyah encore, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, dans cette catégorie, il y a deux catégories. Ce qui te tombe dessus, sans que tu n'y sois pour quoi que ce soit, en tout cas tu ne vois pas ta part de responsabilité dedans. Et ceci, Allah l'a facilité à certains. Perdre quelqu'un que l'on aime, avoir une maladie qui t'empêche de faire ceci et cela, et très certainement, c'est quelque chose que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Le cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit vis-à-vis des épreuves, il y a trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes. Les râleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait à Allah ? Et je ne mérite pas ça. Et ça, c'est la majorité des gens. Qu'Allah nous en préserve. C'est la majorité. C'est facile de dire, je suis incroyant. C'est comme le vernis, mes frères et mes sœurs. C'est comme le vernis. Je n'en mets pas, mais je sais comment le dissolvant agit sur le vernis. Tu le vois, c'est joli, c'est beau. Il suffit de quelques gouttes d'acétone ou de dissolvant pour que ça disparaisse. Voilà, vous voulez. Moi, je suis croyant. Moi aussi, j'ai ceci. Moi aussi, j'ai cela. La moindre convocation, le moindre blâme, tu perds ta foi. Voilà, hawla, voilà quoi. Parce qu'elle n'est pas solide. Elle n'est pas rentrée. Elle a effleuré. Elle n'est pas rentrée dans le cœur. Parce que, comme le dirait Héraclius, jamais. On a vu quelqu'un rentrer. La foi rentrer dans le cœur de quelqu'un et en sortir. Qui sort de l'islam, on a oublié. Jamais. La première catégorie est ce qui te tombe dessus. Et tu ne comprends pas. Et Allah a donné à certains la possibilité de l'accepter. Comme ce hadith que vous connaissez tous, d'Al-Khabbab ibn Arwat, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit, on est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était accoudé à la Kaaba, en disant, est-ce que tu ne vas pas le faire des invocations pour que Allah lève notre épreuve? Il s'est redressé, alayhi salatu wassalam, il savait de quoi il parlait, alayhi salatu wassalam. Quand il a dit, avant vous, il y avait des gens qui, parce qu'ils disaient, mon Seigneur Allah, on les divisait en deux, on les tuait. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas trahi, parce que simplement ils ont dit notre Seigneur Allah. Soit on attachait les deux pieds à deux animaux que l'on chassait de part et d'autre, et on les déchirait en deux. On ne peut même pas l'imaginer. Soit alors, on leur enlevait la cervelle au travers d'un fer pour enlever ce qui est sous le crâne, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du hadith, il a dit simplement, vous êtes un peuple qui est impatient. Cheikh Othaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit donc, il y a des gens qui sont là en train de n'accepter pas. Et pour eux, c'est la tristesse et le malheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Certains sortent de l'islam en disant, si Dieu, ta'ala Allah et andalika ulouan kabiro, est juste, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il arrive ceci et cela et dans le monde et ceci? Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Et tu prétends être croyant. Ça, c'est la majorité. Qu'Allah nous en préserve. Une partie qui accepte ce que Allah l'envoie, mais qui ne remercie pas Allah. Il accepte, mais parce qu'il faut accepter. Allah a mis une miséricorde sur eux, et la langue s'est tue, le cœur est gros. Et une troisième partie, ça ce sont les meilleurs, qui acceptent l'épreuve et qui remercient Allah. Ils ont honte. Connaissant Allah, ils ont honte. Ils ont honte de se plaindre à Allah, d'autres qu'eux-mêmes. Parce que quand une chose arrive, on fait dire à Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agré, quand une chose arrive, elle arrive à cause de tes péchés. Ou pour que Allah t'éprouve et t'élève en degré. Ça, c'est le cas, bien sûr, des prophètes alayhi salatu wassalam. Quant à nous, si tu n'as pas tiré une leçon de ce qui t'est arrivé en disant je ne mérite pas ça, certainement, il y a un problème. En toi, tu ne te connais pas. Et tout ce qui nous arrive, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de ce que nos mains ont perpétré. Et ensuite, Allah choisit qui il veut et les élève en degré. Il n'y a pas, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mal quelconque, une douleur quelconque, depuis une piqûre d'épine jusqu'à plus, aux croyants, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui enlève des péchés ou ne lève en degré. Ou comme il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Cette troisième catégorie, c'est la catégorie des prophètes et les gens qui les ont suivis, les sincères. Des gens qui savent, connaissent leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. S'il t'a pris ton enfant, il sait ce que cet enfant aurait donné. Ce que cet enfant serait devenu. S'il t'a pris ton bien, il sait ce bien, ce qu'il t'aurait apporté comme mal. Si tu as fait ceci et cela, tu dois le remercier, subhanahu wa ta'ala. Je vous renvoie aux différents versets et différents tafsirs du Coran, notamment celles que vous lisez à tort ou à raison, et à tous les vendredis, de la sourate Kahf, en particulier les versets 60 et suivants, à propos de Moussa alayhi salatu salam et de l'homme vert. Arrivé, quand il a relaté cette histoire, le prophète salam, il a dit, plus à Dieu que Moussa alayhi salatu salam eût été plus patient. On aurait appris plus. Si Moussa alayhi salatu salam, l'un des cinq ulul azm, prophète de la détermination, si Moussa alayhi salatu salam n'a pas été patient en compagnie de cet homme, l'homme vert, alayhi salam, comment est-ce que toi tu peux être patient? L'homme a été créé certainement impatient. Et Allah donne la patience à qui il veut. La première catégorie, c'est celle qui te tombe dessus. La deuxième catégorie, c'est celle de la faute des gens. Dans ton honneur, la calomnie, la médisance, les torts que les gens vont faire. Et pour les meilleurs d'entre nous, ils patientent. C'est ce qu'il leur a commandé. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que tu as 10 raisons de patienter. Nous n'avons pas le temps de les détailler. 10 raisons de patienter. Quand tu penses que Allah te l'a envoyé et qu'il te veut du bien, cela suffit pour patienter. Quand tu penses, quand tu sais que la récompense du patient n'a pas de limite, certainement tu vas patienter. Et quand tu sais que la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus parfaite, tu ne vas pas chercher à te venger. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khayru li sabirin. On dit que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes. Après les prophètes alayhi wa sallam, quand ils ont vu ce qui est arrivé à Hamza, qu'Allah l'agrée, qu'on a ouvert, on l'a très traîtreusement assassiné pour que Allah l'honore. On a ouvert sa poitrine. On a arraché son cœur et son foie. On a vu de la tristesse sur la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ayant vu ça, dans l'une des explications, on dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si on rencontre les Quraysh la prochaine fois, on va en tuer 30 pour la mort de Hamza. Et Allah a révélé, Wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqtum bi. Si vous vengez, donnez de la même mesure. Mais si vous patientez, c'est mieux pour les patients. La vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala est terrible, mon frère. Quand tu te mets à calomnier les gens, y compris parmi tes proches, quand tu fais de l'injustice, tant aussi petite soit-elle, l'honneur du croyant, l'honneur du musulman est sacré. Wallahi, tu vas le goûter si tu ne reviens pas vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Même si c'est ton propre père, même si c'est ton propre fils, même si c'est ta propre femme, ton propre mari, ton frère, il reste ton frère. Est-ce que tu as mieux sur cette terre que ton frère qui a choisi Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah disait, ça c'est la catégorie la plus difficile à l'homme. Parce que l'ego est là, dirait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a relaté une phrase que certains d'entre nous ont vue un samedi ou des samedis. Entre tes relations, on dit que le cheikh Abdel Qadir a dit, entre Allah et toi, enlève les créatures. C'est-à-dire, sois le plus sincère possible. Et dans tes relations avec l'autre, enlève ton ego. C'est ton ego qui t'amène tout ça. Moi, je suis. Moi, je crois. Moi, je pense. Ibn Qayyim disait, c'est le moi qui a amené Pharaon. Moi, je suis votre Seigneur en enfer. C'est le moi qui a amené Shaitan en enfer. Moi, je suis meilleur que lui. Moi, j'ai été créé de feu. C'est le moi qui a amené Qarun au fin fond de l'enfer en tombant et que Allah a ouvert la terre sous ses pieds. Moi, je suis le plus riche d'entre vous et je ne le dois qu'à moi-même. Ton ego, tu dois l'effacer. C'est pour cela que c'est extrêmement difficile. Quand tu entends parler, quand on t'insulte, quand on te calomnie, quand tu entends la médisance, mais la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va certainement pas tarder. Dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et donc, ceux qui ont été les meilleurs ont suivi, que dis-je, le meilleur des hommes, quand son peuple l'a attaqué et Allah a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été le plus éprouvé. À Uhud, quand ils ont creusé un trou, un piège, et il est tombé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu ses incisives, ou deux de ses incisives cassées. Il a son casque qui lui a transpercé la joue. Comme il disait, comment un peuple peut être béni quand ils font couler le sang de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est patient, wallahi, Allah est patient. S'il s'en prenait aux gens, pour ce que nous avons fait, il n'aurait pas laissé un seul être vivant sur la terre. Allah te donne à manger, à boire, à respirer, tout. Il te donne tout et ce que tu ne vois pas, c'est encore beaucoup plus que ce que tu vois. Ses bienfaits sont innombrables. Et il ne te demande rien. Et tu lui désobéis. Et Allah te tend. Il te tend la corde jusqu'à ce que tu reviennes vers lui. Il envoie son inspiration et il n'inspire que ce qui est le meilleur pour que tu reviennes vers lui repentant. Et ensuite, il te pardonne. Subhanallah, amma yushrikoun. Wallahi, Allah est bon. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand il va te rencontrer, mon frère, ma soeur, avec tes péchés, wallahi, tu sauras qui il est. Wallahi tu seras qui il est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ses compagnons lui ont demandé, maudit, appelle Allah, invoque-le pour maudire ce peuple. Deux versions ont été rapportées de ce hadith. Une des versions rapportées par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je voyais un prophète en train de dire, oh mon Dieu, pardonne mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et l'autre qui dit, oh mon Dieu, directement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes a dit, Ya Allah, Allahumma ghfir qawmi, fa innahum la ya'lamoun. Oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Et Ibn Qayyim et avant lui, son cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah le fasse miséricorde, on dit que dans cela, Ibn Taymiyyah cite 3 degrés de l'excellence, et Ibn Qayyim cite 4 degrés de l'excellence. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner indirectement. Et directement, Ya Allah, pardonne à mon peuple. Ils font du mal, mais pardonne-leur. Et lui les a pardonnés. S'il ne les a pas pardonnés, il n'aurait pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et ensuite, il dit, mon peuple, malgré qu'ils ont voulu l'assassiner, malgré tous leurs méfaits, ils disent, mon peuple, je suis d'eux, ils sont de moi, Ya Allah, à cause de moi, pardonne-leur. Et bien sûr, ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrièmement, dit Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il leur trouve des excuses. La ilaha illallah. Il leur trouve des excuses. Fa'innahum la ya'lamoun. Effectivement, ils ne savent pas. Wallahi, s'ils savaient, ils ne l'auraient pas fait. Wallahi, si tu savais, tu n'aurais pas nagé dans tes péchés. Tu n'aurais pas nagé. Et ils trouvent des excuses, ils ne savent pas. Et c'est vrai, ils ne savent pas. Allah a guidé ensuite qui il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux d'entre nous qui sont éprouvés, nous le serons tous, beaucoup plus éprouvés que nous. Notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? La mère des croyantes, que des gens l'ont accusée de ce don, elle est complètement innocente. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé ce qu'il a révélé, subhanahu wa ta'ala. Mes frères, mes sœurs, un mois important, comme vous le savez, s'annonce. Je ne veux pas encore parler du Ramadan, je veux parler de Chaban. Chaban est à nos portes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué. Et il est le seul digne d'être loué, de nous avoir permis, de nous avoir conservé ce qu'il aime et agrée. En effet, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, n'en déplaise aux injustes, qu'Allah l'agrée et nous attestons, comme le faisait mieux que moi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a été la femme du prophète Hassan dans ce bas monde et qu'elle le sera dans l'au-delà. C'était sa supériorité, comme l'a dit le prophète Hassan, et cette supériorité par rapport aux autres femmes, et cette supériorité qu'il a comparée à un nom de soupe bien connu à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux autres mets, qui étaient préférés par rapport aux autres. Et il aimait, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait son père, il aimait ce que Allah subhanahu wa ta'ala aimait. Notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Il jeûnait au point qu'on disait qu'il n'allait pas arrêter de jeûner. Chaque fois qu'on voulait le voir jeûner, il jeûnait, dit Anas. Et chaque fois qu'on voulait le voir manger, il mangeait. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point que nous disions, mais il ne va jamais manger. Et il mangeait, il ne jeûnait pas, au point qu'on se disait, mais il ne jeûne pas. Le prophète n'a jeûné aucun mois complet, si ce n'est le mois de Ramadan. Mais le mois qu'il jeûnait le plus en dehors du Ramadan, c'était Chaban. Oussama nous rapporte qu'Allah l'agré. J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te vois jeûner Chaban plus que les autres. Chaban étant le 8e mois de l'année musulmane, de l'année lunaire. Et ce n'est pas un mois sacré, mais Allah a voulu honorer ce qu'il veut. Et n'est vraiment honoreux que ce qu'Allah honore. Chaban, ce 8e mois, je te vois le jeûner souvent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, ça c'est parce que c'est un mois, en fait, que très peu de gens lui accordent la place qu'il doit avoir. Beaucoup de gens sont insouciants par rapport à ce mois, parce qu'il est entre mois sacrés. Pour ceux d'entre nous qui savent ce que le mois sacré, Rajab, dans lequel nous sommes dans les derniers jours, et un mois béni qui est le mois de Ramadan. C'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevés au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais, alayhi salatu wasalam, j'aimerais que le jeûne soit compté parmi mes œuvres, alayhi salatu wasalam. Donc, les œuvres ne sont pas Lundi et jeudi, comme vous le savez, c'est une version qu'a donnée le prophète sallam. C'est un mois, le Sha'ban, où Allah subhanahu wa ta'ala, les œuvres lui sont présentées, bien qu'il les sache, avant d'avoir tout créé, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume qui a et lui a dicté ce qui devait arriver. Donc Allah le sait, avant même de nous avoir créés, subhanahu wa ta'ala. Mais les œuvres sont élevées. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, moi, je suis prophète. Allah m'a pardonné mes erreurs. Elle va venir à passer. Donc, bon, ce n'est pas la peine. Vous jeûnez. Moi, je ne jeûne pas. Non. Le meilleur des hommes. Est-ce que tu ne veux pas, ya Aïcha, que je sois un serviteur très reconnaissant? Comment tu peux remercier Allah de t'avoir donné la foi? Comment tu peux remercier Allah de t'avoir évité tout ce que tu vois? Wallahi, tu n'es pas éprouvé comparé aux autres. Comparé à d'autres, y compris tes voisins que tu ne vois pas et à qui Allah a donné. Allah, il a force du sabre. Tu les vois, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Et Allah seul sait comment ils souffrent. Et toi, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas de pudeur en train de te plaindre. Tu ne vois pas ce que Dieu m'a fait. Tu ne vois pas ceci, cela. Et le prophète sallam était conscient, le plus conscient de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bonté. Ya Aïcha, comment tu veux? Est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Il jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam, comme personne ne jeûnait. Il a supporté les sévices que comme personne ne les a supportés. Le bien qu'il a fait, personne ne saurait l'atteindre. Je ne parle même pas de chevilles, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce n'est pas parce que tu as fait quelques bonnes actions, Allah seul sait, compte plutôt parmi ceux qui, quand ils font des actions, ils ont peur qu'Allah ne l'accepte pas. Parce qu'Allah l'accepte que des muttaqin, que des pieux, des gens qui craignent Allah. Il a dit, alayhi salatu wasalam, j'aimerais que le jeûne fasse partie de mes actions. Et donc, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wasalam jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban. Et il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas du tout contradictoires, qui le sont pour nous, parce que notre science est si limitée. Mais les savants disent que par rapport au jeûne de Sha'ban, qui va commencer, inshallah, certains disent c'est mardi, d'autres disent c'est mercredi, c'est tout un mois dans lequel le jeûne est particulièrement recommandé. Nos actions vont être présentées à Allah. Pour ce, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala qui les accepte et qui nous incite surtout à faire les bonnes actions. Les actions vont être présentées à Allah. Cela ne veut pas dire, contrairement à ce que certains font, jeûner spécialement le 15, Sha'ban, parce que des hadiths inventés, sans discussion entre les savants, inventés, font dire que celui qui jeûne le 15, il va avoir ceci, ça va donner ceci, ça va donner cela. Aucun hadith authentique n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni une pratique que les meilleurs des hommes après lui ont suivi. Donc ne le fais pas, pas spécialement le 15. C'est le mois, mes sœurs, pendant lequel, comme notre mère Aïcha radhiallahu anha, rattrapait les jours d'indisposition. Elle disait qu'Allah l'agré, à cause des occupations, il nous arrivait parfois de ne pouvoir rendre le mois, les jours que nous devons du Ramadan passé, que pendant Sha'ban. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras désobéi à Allah qui t'a donné 11 mois pour rattraper tes jours. Pour rattraper tes jours. Alors précipite-toi pour rendre. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a plus droit que tu payes tes dettes vis-à-vis de lui. Il t'a envoyé le Coran, la vérité, il t'a donné la foi et remercie-le au travers du jeûne. Si tu ne peux pas, pour une excuse, alors tu dois te précipiter pour rendre tes jours. Et donc, il a dit également, alayhi salatu wasalam, dans un autre hadith, quand la moitié de Sha'ban arrive, arrêtez de jeûner. Arrêtez de jeûner. Et pourtant, il a également dit, alayhi salatu wasalam, que personne ne jeûne un ou deux jours avant Ramadan. Donc, les savants, ils ont regroupé tous ces hadiths en disant, en réalité, celui qui a l'habitude de jeûner avant Ramadan, celui qui a fait le vœu de, qui a juré par Allah ou je ne sais quoi d'autre, comme la fâcheuse habitude que certains d'entre nous ont pour un oui, pour un non. Wallahi, wallahi, tu ne sais pas par qui tu jures. Et celui-là, il doit donner à manger à 10 pauvres. S'il n'a pas les moyens, alors il doit jeûner 3 jours. Et donc, celui qui doit quelque chose, ou qui a fait pire encore que ça, qui doit jeûner 2 mois consécutifs, etc., etc., lui, il peut jeûner jusqu'au Ramadan. Mais celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, celui-là doit s'arrêter à partir de à la moitié du mois de Sha'ban, c'est ce qu'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux d'entre vous, et vous êtes nombreux, barakallahu fikoum, à jeûner lundi et jeudi, ils peuvent jeûner jusque la veille du Ramadan, il n'y a absolument pas de problème. Les seuls jours qui leur sont interdits sont les jours de l'Aïd Et donc les jours de séchage, de tachrik, mais on en est encore loin. Ceux qui jeûnent d'habitude lundi et jeudi, ou le 13, 14, 15, il n'y a aucun souci, ils peuvent le faire. Par contre, un mois qui va venir, dans lequel le prophète sallam nous a averti ce qui va nous arriver, alors revenons vers Allah, subhanahu wa ta'ala, repentant, pour que le repentir pèse et que Allah nous pardonne nos péchés. Et multiplions encore plus les bonnes actions. Et parmi lesquelles, le prophète sallam a choisi le jeûne qui n'a pas d'équivalent. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.